Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Nous sommes mardi matin et nous allons parler d'une exposition qui va avoir lieu la semaine prochaine, dont le vernissage est le 10, qui s'appelle 10 avril, donc qui s'appelle Amour, et qui aura lieu à la galerie Espace-Temps 98, rue de Quincampoix. Bien sûr, vous trouverez ces renseignements sur la page avec le podcast. Et je vais passer la parole au commissaire d'exposition, Laurent Kenhen, qui est parmi nous et qui a un mode de sélection pour faire ses expositions. Laurent fait 3 expositions par an, l'une sur la mort, l'une sur l'amour et l'une sur l'érotisme. Et il a un mode d'exposition qui me fascine et qui est très ouvert et dont il va nous parler. Bonjour Laurent.
Bonjour Yves. Oui, le mode de sélection. L'expo Amour aura lieu du 10 au 13, mais le vernissage c'est le 9.
Voilà. Le 9 avril.
Oui, Quincampoix. Donc le mode sélection, moi, je fais un appel à candidature, voilà, où je demande que les artistes n'envoient pas de CV, uniquement des visuels. Voilà. Et là, pour les 3 salons, j'ai reçu plus de 1500 candidatures.
Et ça couvre la planète, pratiquement.
Oui, j'ai reçu des candidatures d'Afrique, beaucoup d'Afrique, hein, d'ailleurs. De Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Pologne, un peu partout. Bon.
Voilà. Et donc, alors vous avez sélectionné pour Amour des gens, on a des Asiatiques, on a...
Pour Amour, il y a 85 artistes. Hein. Ouais. Et en fait, Amour, c'est le 6e du nom. Et c'est un peu la suite du salon érotique. Hein. Le salon érotique, ça sera le 13e cette année.
Qui s'appelle Salo.
Salo.
Et donc, c'est une allusion à une usine de salaison.
Oui, en fait, ça avait commencé au Salaison à Romainville. Et c'était après une exposition de Vincent Corpet, qui avait exposé des dessins illustrant Salo et les 120 journées de Sodome. Il a fait plusieurs dessins.
Ah oui, une très belle édition, ouais. Genre comme un papier Bible, comme un volume, ouais, de la Pléiade, où il y a toutes les positions décrites dans, ouais, le livre de Sade.
Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, il y avait une grande expo de Vincent Corpet au Salaison. Et donc, les Salaisons, c'était l'usine de mon grand-père. C'était la maison du cochon. Donc, je me suis dit, ça serait drôle de faire un salon de cochon au Salaison. C'était le premier salon.
C'est comme ça que vous avez commencé à être commissaire d'exposition.
Absolument.
Et en quelle année, là?
C'est il y a 13 ans.
Oui, donc c'était il y a 13 ans.
Et 2013.
Mais voilà. Après, vous avez dit, je vais aussi faire la mort. Puisque
c'est venu bien après Salon sur la mort et Salon sur l'amour. Parce que le Salon sur l'amour, c'est le 6e. Là. J'ai fait auparavant à Plateforme. Et là, c'est à Espace-Temps, l'espace dirigé par Joseph Cui, qui est aussi l'assistant de François Cheng, l'écrivain, poète. Voilà. C'est lui qui me prête le lieu, qui est aussi le commissaire d'exposition. Et je l'avais invité il y a quelques années à un salon érotique, hein, où il avait présenté des œuvres érotiques chinoises.
Et donc vous bénéficiez de locaux qu'on vous prête?
Toujours, oui.
Et des fois c'est très étonnant. Par exemple, je me souviens d'une exposition, il pleuvait beaucoup, mais à la rue Volta, par exemple, dans le quartier des galeries branchées, là.
Ouais.
Et l'espace était très grand, il y avait énormément de monde, c'était très très joyeux.
Oui, je dépends, oui. Pour la mort, il y a eu Bertrand Grimont qui m'a prêté son espace. Après, j'avais été invité par Christian Berst. Ça dépend.
Qui est aussi dans un endroit qui aujourd'hui est très branché,
ouais, ouais,
et qui expose de l'art brut.
L'espace Bertrand Grimont, c'était drôle parce que je devais faire le salon dans un squat et au dernier moment, ils ont annulé. C'était toujours des prêts de lieu. Et donc, Bertrand Grimont a dit je vous prête le lieu pour faire le salon.
Et maintenant, le salon de l'érotisme au boulevard Ménilmontant, c'est une école prépa pour rentrer aux Beaux-Arts, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est une école privée qui prépare les jeunes au concours des écoles publiques, ouais, pour les Beaux-Arts ou d'autres.
Mais ouais. C'est un domaine qui s'est beaucoup développé. Les préparations, par exemple, à Sèvres, il y a une école qui prépare beaucoup d'étudiants.
Oui, et donc le directeur du lieu, Jacques Frézal, me prête l'école après les cours au mois de juin. Pour que je puisse faire le salon. Mais il me prête, là, ça fait un moment, là. Ça fait le 7e ou 8e salon que je fais là-bas.
Et là aussi, c'est très convivial. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vient.
Là, il y a 140, oui, à peu près 140 artistes et beaucoup de monde au vernissage. Mais maintenant, dans les trois salons, il y a beaucoup de monde.
Et vous faites des événements, là. Par exemple, il y avait eu une conférence d'une dame qui s'appelle Mazurette, qui écrit sur le sexe dans le monde.
Oui, oui, elle a fait une conférence.
Si je me trompe sur son nom.
Oui, qui fait une émission. Ouais.
Et qui a une belle surface sociale.
Qui est exposée aussi, qui est exposée.
Qui a un nom, quoi. Quand on écrit dans le monde tous les dimanches, on a un nom.
Ouais.
C'est bien pour faire venir du monde.
Et voilà, et là, à Amour, il y a 85 artistes. Et par rapport aux candidatures, curieusement, c'était le plus de candidatures, c'était pour la mort, pour le salon de la mort. C'est la première fois. Avant, c'était toujours été pour les salons érotiques où il y avait le plus de candidatures. Et là, cette année, c'est pour la mort. Bizarrement.
C'est l'ambiance internationale.
Et pour l'amour, il y a beaucoup de candidatures, mais moins. En fait, pour l'amour, c'est compliqué parce que je crois que les artistes ont du mal à imaginer, à représenter l'amour. Je veux dire, la mort, c'est plus simple à représenter, ou l'érotisme. Et l'amour, c'est vraiment compliqué.
En même temps, la mort, bon, il y a un super livre qui est sorti à l'Atelier Contemporain avec 1000 reproductions de danse de la mort, là, avec des squelettes et tout ça.
Ouais.
La mort, enfin, c'est comme dans tout, il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de... Enfin, la tête de mort, quoi.
C'est, oui, c'est ça. Bon, après...
Le côté médiéval qui revient.
C'est plus facile d'imaginer la mort, même si on ne la connaît pas non plus. Hein.
Parce que dans votre texte qui accompagne la présentation de l'amour, il me semble que vous disiez que c'était plus conceptuel, la sélection cette année. C'était une vision
C'est vraiment le point de vue de chacun sur l'amour. Après, ils essaient de représenter une idée de l'amour, mais... Et presque ceux que je trouve le plus proche, c'est ceux qui ne représentent pas. C'est ceux qui n'ont que des couleurs, comme le rouge ou... Parce que représenter, c'est pas évident, parce que ça devient très, très personnel. Ils représentent, peut-être, ils vont faire une photo de leur enfant, ou de leur copain, ou un dessin représentant leur amant, mais ce sera très personnel, parce que pour nous, ça représente pas quelque chose.
Oui,
non,
donc,
mais je pense que ça va être intéressant, ça va être bien. Moi, c'est toujours bien, Amour. Enfin, les trois salons sont bien. Et Alberto a été intervenu au Salaison.
Parce que nous sommes avec Alberto, comment s'appelle-t-il, de son nom de famille, monsieur qui est Néné.
Sorbelli.
Ouais. Et il est connu.
Bonjour.
Il est connu pour avoir fait une intervention qui a à voir avec l'amour vénal.
Ouais, mais il est connu pour beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il avait fait Chanson d'amour au Salaison. La première chanson d'amour
en live,
oui, complètement.
Qu'est-ce que c'est, Chanson d'amour, Alberto?
J'étais en Inde pendant quelques années, et en 2009, je devais communiquer avec une personne qui était en Europe, en France, et je me suis inscrit sur Facebook, j'ai créé un profil, je n'avais aucun profil dans aucun réseau. Et pourquoi je suis arrivé sur Facebook pour communiquer avec cette personne parce que je savais que j'aurais dû communiquer sur un langage poétique, avec une certaine prise de distance. Je parlais en tant que moi, mais pas complètement en tant que moi, comme un auteur, en fait, qui peut parler à la troisième personne. Et donc, je voulais envoyer des messages à cette personne d'une façon pas 100% directe. Donc, je déclare sur Facebook d'emblée que je commence quelque chose qui a devenu quotidien et sous le nom de chanson d'amour, comme un troubadour moyenâgeux qui raconterait des gestes ou qui dévoilerait des histoires non seulement d'amour entre le seigneur et la bergère ou je ne sais pas quoi. Donc, le titre chanson d'amour m'a paru parfait. Et en revenant d'Inde, d'ailleurs, c'était vraiment en descendant de l'avion, je me retrouve quasiment endormi au Salaison, parce que c'est un petit décalage horaire, rien d'important. Et on avait convié un certain public présent physiquement, dont pas mal de personnes qui étaient ceux qui étaient devenus le public sous les réseaux sociaux, sous Facebook, et qui commençaient à se passionner à ces interventions quasi quotidiennes. Et donc, il y avait des personnes de Bordeaux, de Marseille, de Paris, et qui se sont rendues au Salaison ce jour-là, Et donc, je voyais pour la première fois des têtes, des visages d'individus avec qui j'avais communiqué pendant plusieurs mois sans jamais savoir avec qui j'ai communiqué.
Et donc, ça s'est bien passé alors ?
Ben, ça a commencé en 2009, ça continue. J'ai eu le bonheur, cette œuvre m'a permis de faire des rencontres exceptionnelles. Je vais en citer certains, mais j'en cite un déjà. C'est Romane Charbonnel, qui était étudiante à Paris 8 sur des questions d'esthétique et qui, avec ses copines, c'est ça qu'elle m'a raconté, elle avait 19 ans qu'elle est venue me voir. Et elle avait parlé avec des copines à l'école, je ne sais pas, des personnes, des autres étudiants, et il s'est posé la question sur la postérité des Facebook, des interventions. À l'époque, Instagram n'existait pas encore. Facebook, c'était un événement mondial, vraiment, qui, je pense que la génération des Romanes, qui avait 19 ans en 2000, je ne sais pas quoi, 15, 16, voilà, 17, et... ils sont nés avec les réseaux sociaux, donc c'était quelque chose, pour eux, c'était un acquis évident, comme peut-être pour ma génération, la télévision. Et donc, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe quand une personne meurt sous sa page? Et après, ce raisonnement, ça l'a amené jusqu'à réfléchir. Et alors, qu'est-ce que c'est les interventions des artistes sur Facebook? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir, à dire, à faire avec ça? Donc, elle fréquente un peu Facebook, elle tombe sur mes pages, elle ne me connaissait pas, je pense, comme artiste. Je ne sais pas si à l'école, on lui avait parlé de moi ou pas. Et elle s'étonne, et je me dis, ce type, c'est vraiment un kamikaze, il s'est fait du tort. Normalement, l'artiste publie les images de sa dernière exposition, ou ses dernières œuvres, ou sa publication, quelque chose, pour se faire de la pub, en fait, pour se faire aimer plus que détester. Et en fait, elle dit, ce type est tellement taré, que... Mais alors, peut-être c'est une œuvre, elle a dit. Peut-être c'est justement une attitude à la troisième personne où il crée un personnage, il crée quelque chose. Donc, elle me contacte. Moi, je lui réponds froidement parce que j'étais souvent contacté et que donc j'ai vérifié que les étudiants qui m'ont contacté pour ceci, cela, en fin de compte, c'était des charlatans à moitié paresseux qui n'avaient envie de faire aucune recherche ou aucun travail de fond. Donc, elle me relance avec beaucoup plus de conviction. Et jusqu'à quand je la reçois et on commence des rendez-vous parce que son propos, elle m'est proposé donc d'écrire son mémoire, en tout cas un travail pour l'école. Et elle arrive à écrire ce travail magnifique. Ce travail, elle a à un certain moment voulu le faire devenir un article, le publier, une fois qu'elle avait présenté à l'école dans son cursus d'études, évidemment. Et donc, quand il me dit, j'ai proposé à une revue online, etc., etc., donc j'ai dit, mais attends, avant de le proposer à d'autres publications éventuelles, allons voir Catherine Yeh et Jacques Henrich. Et donc, effectivement, on est allé, Catherine a eu l'amabilité de nous recevoir, et on a fait cette rencontre avec Romane, qui est toujours maintenant parmi nous.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est Catherine Millet qui nous fait l'honneur de venir dans notre studio, qui vient de parler. Et donc, vous voulez compléter ce que vient de dire Alberto ?
Oui, enfin, je ne sais pas. J'apprends une partie de l'histoire, parce que je ne connaissais pas tout ce qui s'était passé avant, et notamment cette préoccupation, je trouve, assez paradoxale de Romane. Cette préoccupation de la pérennité à propos des réseaux sociaux, parce que c'est exactement l'inverse en principe. Les réseaux sociaux, ça passe, ça disparaît, c'est la vie, la mort, hein. Bon, et je trouve ça finalement assez intéressant de se poser quand même la question. Et du coup, si j'ai bien compris, vous êtes quand même tourné à ce moment-là vers une revue papier, quoi. Et donc, le papier, ça reste un peu quand même. Ouais.
Oui, mais disons, la rencontre avec Romane, je me rappelle qu'elle avait envoyé le texte avant et que aussi Jacques Henrich avait dit « Ah, mais c'est formidable, j'ai envie de rencontrer cette étudiante. » Et depuis, elle a collaboré quelques fois après.
Oui, bien sûr.
Et en fait, son article, son mémoire, disons, transformé en article, est publié sur une revue online qui s'appelle TK21, je crois. Et depuis, elle a fait un autre mémoire magnifique sur l'esthétique dans les prisons, à travers l'œillet. En fait, le prisonnier qui regarde dehors à travers l'œillet, et c'est que de l'extérieur, on voit à l'intérieur de la cellule. Et puis, l'histoire d'amour, cette chanson d'amour entre nous continue, disons, Romane est présente aussi dans ce livre que je viens de publier avec 25 auteurs sous le mot que j'ai vendu aux enchères, encore une œuvre qui est très proche d'une question d'amour, d'une chanson d'amour, parce que c'est un mot qu'il fallait que je prononce à l'oreille d'un seul individu, celui qui l'a acheté aux enchères, et que forcément c'est quelque chose de très intime, de très amoureux quelque part. On est deux personnes à connaître ce mot.
Vous nous avez amené un son avec votre définition de l'amour. Nous allons l'écouter.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Voilà. Je me suis maquillée. Je me suis coiffée. J'ai fait les poussières. Mon mari est au cinéma. Voilà.
Bon. Eh bien, puisqu'on est ici, faisons les choses dans les règles.
Dans les règles?
Ben oui, c'est pas maintenant que vous sortez votre liqueur médiévale. Dites-moi où est le bar et je vous sers à boire tout de suite.
Pourquoi? Vous n'êtes pas bien?
Oui, je suis très bien.
Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps, et c'est pas pour ça qu'on est ici.
Bon, mais alors on est ici pourquoi?
Eh bien, pour être ensemble, non? Alors? Maintenant, vous vous demandez ce que vous allez dire.
Oui, et... Oui, et vous me rendez pas les choses faciles, quand même.
Oh, j'aurais cru le contraire. C'est pas là que vous me traînez par les cheveux jusqu'au lit?
Oui. Oui, plus ou moins.
Dans le cas présent, c'est plutôt moins que plus, non? Écoutez, vous êtes bien habitué à ce genre de choses, non?
Vous aussi. Oh. Vous êtes marié depuis longtemps?
6 ans.
Et qu'est-ce qu'il fait?
Vous tenez absolument que je parle de lui?
Non, mais c'est quand même mieux que de parler d'autre chose et de penser à lui, n'est-ce pas?
Je me le demande. Bon, qu'est-ce qu'on fait?
Je ne sais pas.
Eh bien, si on ne fait pas l'amour et si vous ne partez pas, il faut bien faire quelque chose, non?
Par exemple?
Parler.
Parler. De quoi?
Eh bien, de nous-mêmes.
Et vous pensez que ça va nous aider?
Oui.
Mais à quoi?
À être ensemble. Puisque c'est pour être ensemble qu'on est là. C'est vous qui commencez.
Alors, Monsieur Sorbelli, de quoi s'agit-il?
Bien, ces deux voix célébrissimes, il s'agit de Romy Schneider avec Fabio Testi, dans L'importance d'aimer, de André
Zulawski.
Voilà. 1976, je crois, et 75. Et je suis tombé sur ce passage. J'avais pas vu le film à cette époque-là. J'avais 12, 14. Non, pas. Et puisque, disons, évidemment, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas l'amour et vous ne partez pas, il ne nous reste qu'à parler pour apprendre à être ensemble. Ça me paraît un message d'amour fondamental. Après, on peut rajouter des paix, de tout un tas de choses. J'ai découvert, par exemple, moi je suis un étudiant de Beaux-Arts, sorti diplômé des Beaux-Arts, mais j'ai découvert dans la linguistique le seul potentiel d'évolution de notre civilisation, en fait. On vit dans l'illusion de communiquer, parce que nous sommes convaincus qu'avec tous les réseaux et les médias qu'on a, on communique. Et en fait, on se rend compte qu'on ne communique pas. On est incapable de comprendre l'autre, de s'exprimer. En fait, on est toujours déconnecté avec les histoires des langages, où le langage se prête à 2000 interprétations différentes. Donc, cette idée de parler pour apprendre à être ensemble, ça me paraît tellement fondamental. Je viens de faire 2 conférences dans un master 2 de linguistique avec une femme, Marianne Durie, professeure extraordinaire. Elle s'est passionnée, disons, on s'est rencontrés il y a 12 ans et tout. Mais elle m'invite parce que justement, elle voulait apporter un message. Mais on a vu même les étudiants en linguistique, d'une certaine manière, en grande difficulté à recevoir une parole. C'est faire cet espace mental en silence pour dire, par exemple, elle, 2e conférence, elle les oblige à écrire un texte après mon intervention, et quelqu'un pond un texte en parlant de comment j'étais habillé ces jours-là, pour, je sais pas, 1h30 de conférence dans un master de linguistique. C'est vrai que tout est langage, même le vestimentaire, mais quand même.
Moi, j'ai trouvé ce passage assez émouvant, parce que j'ai imaginé que la rencontre se faisait dans... que cette femme se prostituait, en fait. Je suis pas sûre d'avoir vu le film. Enfin, ça me dit quelque chose. Alors, peut-être c'est pour ça, mais j'ai imaginé que c'était une bourgeoise qui se prostituait. Voilà, moi, j'ai reconstruit la scène comme ça. Et le fait qu'elle mette en avant... le langage, moi évidemment j'y suis très sensible parce que moi mon métier c'est d'abord d'écrire, donc de manier les mots, et je trouve que c'est assez significatif que réunis ici pour parler de salon d'art, finalement très vite c'est un artiste qui nous rappelle quelle est l'importance aussi du langage parlé, et pas simplement dessiner ou exhiber dans des performances ou sur une scène de théâtre. Et je pense que, en fait, quelle que soit la forme d'art, on a besoin à un moment donné que ça passe quand même par le langage et par le langage articulé. L'autre chose qui m'a frappée là depuis le début de notre conversation, c'est ce que disait Laurent à propos de ces salons où, bien sûr, d'abord il choisit uniquement des images. Il refuse les CV, il refuse de lire d'où vient la personne, quel âge elle a, etc., si elle a reçu une formation ou pas. Donc il se fie uniquement aux images, et ça, je trouve ça très très juste. Mais en revanche, il nous a raconté aussi que le jour du vernissage, c'était un moment de rencontre formidable. Il y a beaucoup de gens, même il nous évoquait ceux qui ont des difficultés parce qu'ils habitent à l'étranger, donc ça devient compliqué de venir jusqu'à Paris. Et pourquoi ils viennent au vernissage? Ils viennent pour parler, ils viennent pour rencontrer les autres, ils viennent pour échanger, ils viennent pour regarder ce qu'ont fait les autres, et puis en parler, en fait, ensemble. Et ça, je trouve que c'est une très bonne description de comment ça se passe, en fait, dans le monde de l'art, quoi. On a quand même besoin de parler. D'ailleurs, on est là pour faire ça. Il n'y a pas d'image pendant qu'on... Il y a les images mentales qu'on se fabrique en même temps qu'on parle, évidemment. Ça, c'est autre chose. Moi, je me suis fabriqué des images, une image mentale pas mal, là, en écoutant le passage de ce film.
Tu as tout à fait perçu... les deux personnages, en fait, elle, le film commence où elle tourne une scène porno pour un film. Évidemment, ce film-là, ce n'est pas du tout un film porno, on ne voit aucune scène pornographique directe et explicite, mais elle joue le rôle d'une actrice un peu paumée, un peu désorientée dans sa direction, et donc elle se retrouve aussi à faire du porno. Et Fabio Tess, c'est le photographe qui fait du making-of, comme ça. Ah, et donc, il y a une rencontre qui s'est faite. Elle est mariée avec Dutron, l'acteur Dutron dans le film, etc. Et donc, mais oui, ça, les expos, déjà, Laurent Kenen est un génie, parce qu'on oppose, disons, des situations muséales, institutionnelles, aux marchands de galeries, foires, etc., avec ce qu'il lui fait. Effectivement, on connaît un système où on expose par rapport à tout un parcours qui peut être justement le CV et les relations aussi. Mais lui, il préfère faire abstraction de tout ça et il obtient un tel enthousiasme au point que quelques années, il était obligé de donner un mot de passe parce que les visiteurs de ces expositions étaient tellement nombreux, les trottoirs étaient pleins pendant des kilomètres, donc ils ne pouvaient pas faire entrer tout le monde et il donnait un mot de passe. Tu as connu ça, tu as assisté à ça.
Ouais.
Voilà. Et effectivement, on expose des œuvres, on a un langage visuel, formal, performatif, sonore, tout ce qu'on veut. Mais comme dit Catherine, à un certain moment, on a besoin de se rencontrer. On va au salon, par exemple, du dessin érotique, mais si on ne fait pas l'amour, si on s'en va, parce qu'on y va justement, donc ce n'est pas pour ne pas y aller, on y va, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Parler, apprendre à être ensemble, ce n'est pas si facile. Et je ne parle pas seulement des questions diplomatiques internationales, mais déjà dans une communauté intime très étroite, qu'il soit un noyau familial ou comme ça d'une exposition, même cohabiter entre artistes, à chaque fois, ça se révèle quelque chose de pas si facile que ça.
Et donc vous étiez depuis le début avec Laurent pour la première exposition de Vincent Corpin, vous y étiez?
Oui, j'ai été co-commissaire d'une exposition de Vincent Corpé au Salaison. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Laurent, je crois, la première fois. C'était très, moi, c'était une formidable expérience.
Oui, il y avait six commissaires et qui travaillaient sur l'œuvre de Corpé, qui faisaient des choix parmi les œuvres de Vincent.
Et moi, je crois que j'avais choisi d'exposer les portraits, les nus. C'est ça, hein,
ouais.
Moi, je crois que c'était ma section à moi. Ouais. C'est-à-dire, c'est cette peinture que fait Vincent Corpé. Il fait poser le modèle, il le reproduit grandeur nature, il le fait poser nu et le tableau a juste les dimensions, en fait, les dimensions d'un, comment dire, d'une, comment on a, d'un, ah, pardon. Je,
c'est à l'échelle 1.
Le corps est à l'échelle 1, mais il est comme mis dans sa boîte déjà, dans laquelle...
Ouais, je crois qu'il scanne, c'est comme s'il scannait, quoi, quand il peint, il travaille les genoux.
Ah oui, alors
après, il travaille comme ça.
Il a une technique. Bon, si on dit 5 minutes quelque chose du travail de Vincent Corpé, il a une technique pour ses portraits très très réalistes et qui sont en même temps très étranges. Et l'étrangeté est expliquée par cette technique, c'est que il pose son regard toujours exactement face à cette tranche de corps en quelque sorte qu'il reproduit sur la toile. Donc il n'y a aucun effet de perspective et l'image est complètement plate. On est vraiment aplati, épinglé, quoi, en fait, sur la surface de la toile. Et ça, donc ça produit une image de soi, enfin, parce que il se trouve que j'ai posé pour Corpé, une image de soi très étrange parce qu'elle est très réaliste, on se reconnaît, il n'y a pas de problème. Bon, il est très doué pour ça. Mais en même temps, comme jamais on ne se voit dans un miroir ni dans une photographie, en fait. Il produit une image qui est absolument originale de
ce point. Elle n'est pas du tout idéalisée.
Elle n'est pas du tout idéalisée.
C'est là qu'on voit que le nu académique, en général, est idéalisé.
Ah bah complètement.
Même une séance de nu avec des gens qui apprennent à dessiner, tout de suite, ils idéalisent.
Absolument.
Et Vincent est d'une méchanceté totale.
Il n'est pas méchant.
Dans le sens où il isole un endroit, il le montre tel qu'il est, après l'endroit suivant. Et même nous, quand on se regarde dans le miroir, si on avait le regard de Vincent, on ne pourrait pas. On supprimerait les miroirs. C'est un regard que je trouve quand même très sévère.
C'est amusant cette allusion au miroir parce que je l'ai entendu commenter cela. Il se trouve que, bon, moi je dois avoir un bon tempérament.
Vous avez posé votre ami.
Alors
aussi.
J'ai posé et sur mon portrait je souris. Et c'est quelque chose que les gens ont remarqué parce que, en fait, c'est assez rare les gens qui sourient. Pourquoi ? Parce que les séances de pause sont longues.
Et qu'on est nu,
qu'il ne fait pas forcément très chaud, et qu'au bout d'un moment, on fatigue, on commence à penser à autre chose, peut-être à ses problèmes, etc. Bon. Et un commentaire de Vincent, c'était de dire que les gens étaient gênés de se voir comme ça, pas souriant, parce qu'en fait, quand il se regarde dans le miroir, il se sourit. Oui. On se sourit, en fait, spontanément. On est content de se reconnaître et on s'envoie un petit sourire. Voilà. Donc, on n'a pas l'habitude de se voir vraiment face à face et grave.
Oui, c'est un entomologiste.
Oui, c'est ça, exactement.
Et donc, parce que même quand on vieillit, donc c'est très pénible, ça devient de plus en plus pénible d'aller le matin à la salle de bain, mais on maugréille, on se parle et tout.
Voilà.
Tandis que dans les portraits de Vincent, le personnage ne se parle pas. Il est épinglé.
Oui,
c'est vraiment comme un insecte. Mm-hmm. C'est un gros album. C'était très réussi, cette série de peintures qu'il a fait.
Mais donc, pour en revenir au Salaison, d'où tout est parti, comme ça. C'était un endroit c'était un endroit en marge.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oui, complètement, parce que c'était l'usine de mon grand-père, l'ancienne usine de mon grand-père, c'était charcutier.
J'ai oublié la ville.
Romainville.
C'était à Romainville.
Romainville, où j'avais justement aucune subvention et on espérait avec cette exposition avoir des subventions, j'en ai pas eu. Et la mère de l'époque m'a dit, mais l'art contemporain, c'est pas fait pour les Romainvillois.
Ah oui. Alors.
Alors que là, maintenant, il y a cinq galeries, il y a le FRAC.
Il y a un vrai centre.
C'était communiste.
Il y a un vrai centre.
Ça a été communiste, après, ça a été Front de Gauche, et après. Il changeait de bord pour être élu, en fait. Mmh. Enfin, je sais pas comment ça se passait, mais c'était.
J'ajoute quelque chose comme ça sur cette question de la marginalité, mais c'est pas vraiment la marginalité non plus. Moi, je pense que c'est très très important que des initiatives comme celle de Laurent existent, des salons qui sont complètement indépendants, qui sont produits par une personne, qui se fait accueillir par un ami, il faut à chaque fois trouver le lieu, et que les artistes participent, et que ce genre de fonctionnement continue à exister, et que tout soit pas institutionnalisé, parce que tout est maintenant tellement cadré dans le monde de l'art, que quelque chose qui sort du cadre, ça fait du bien, quoi. Et je pense que c'est pour ça que ça marche, en fait.
Est-ce qu'on peut tracer un parallèle avec Art Press? Sur les rubriques à la fin, est-ce que l'Art Presse manifeste une ouverture d'esprit ou il y a
quoi? J'espère.
Est-ce que l'Art Presse défend une ligne?
S'il y a une ligne aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on, c'est celle qu'on pense être la qualité, en fait. Mmh. On n'a pas d'a priori. Parce qu'on suit la création. Donc, aujourd'hui, c'est des artistes, par exemple, comme on voit en ce moment, qui s'orientent plutôt vers une peinture, finalement, avec des moyens assez traditionnels, figuratifs, etc. On est bien obligé d'en faire le constat. Mais à l'intérieur de ça, et ça, c'est très, très loin de ce qu'on a pu défendre au début, où on était beaucoup plus conceptuel. Bon, mais à l'intérieur de cette tendance aujourd'hui, on essaye de choisir le meilleur. Et ce qui ne nous invite pas à un retour en arrière. Moi, je suis très attachée à la notion encore d'avant-garde. C'est-à-dire, je pense que l'art, c'est fait quand même pour débroussailler le terrain, aller de l'avant, inventer des choses qu'on n'a pas encore vues. Bon, alors, je pense qu'on peut aujourd'hui, par exemple, Alberto Sorbelli, il est capable de faire le dessin d'une chaise et de vous montrer la chaise comme vous ne l'avez jamais vue. Enfin, moi, j'adore ses dessins en particulier. Il invente une chaise. On croit qu'une chaise, c'est quelque chose de très simple. Et alors, d'une manière très simple, il nous montre que non, justement, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, donc c'est ça que je demande à l'art, c'est de me montrer ce que je n'ai pas encore vu. Et ça devient difficile des fois de trouver ça.
On a un peu fait le tour, mais bon, il y a d'autres moyens qui existent dans d'autres dimensions.
Laurent nous disait qu'il y avait un artiste qui avait proposé des œuvres faites par intelligence artificielle, cette fois-ci, dans un des salons.
Oui, dans le salon, dans l'éternité et un jour, le salon sur le thème de la mort.
Mais Art Press est à tel point ouvert à l'écoute avec les oreilles, avec les yeux, que moi, si je suis aujourd'hui ici invité comme artiste. Je suis un artiste qui a pu bénéficier d'une certaine écoute. C'est probablement grâce à Art Press. En 1992, j'étais encore étudiant aux Beaux-Arts. J'étais en deuxième année, probablement. Et après, occupé un immeuble somptueux sur le boulevard Saint-Germain, un immeuble néo-gothique, etc. Donc, moi, j'étais étudiant, donc totalement inconnu, en plus débutant même à l'école. Et je vais à l'école, chez Art Press en sortant de l'école, donc c'était probablement 5 minutes à pied. Et j'ai dit, j'aimerais bien publier mon numéro de téléphone sur Art Press. Évidemment, j'ai proposé ça comme une œuvre, et évidemment, gratuitement. Je ne pensais pas à prendre un espace publicitaire payant. Et on l'a fait. Et Art Press a publié, osé, 24 heures sur 24, mon numéro de téléphone. Et ça, j'ai eu tellement d'appels. Donc, quelques temps après, 2 ans après, c'est grâce à Vincent Corpé, pour lequel moi aussi j'avais posé pour ses nus, et j'avais même posé pour son version de l'origine du monde, en fait, en érection. Donc, j'avais commencé par poser en érection pour son origine du monde, qui s'appelle Rasé, ou quelque chose. Je ne me rappelle pas comment c'est le titre de ce tableau. Et donc, à un certain moment, il apprend que je suis invité au Musée d'art moderne de la ville de Paris, sous la direction de Suzanne Paget, pour une exposition L'hiver de l'amour, avec beaucoup d'artistes.
Joël Lubot.
Du monde entier.
Non, c'est Joël Lubot qui était commissaire.
Non, Olivier Zahm.
Ah oui.
Et avec d'autres commissaires. Donc, je suis invité officiellement avec des courriers, des lettres, et tout, etc., etc. Sauf que 3 jours avant du vernissage, on me censure. On m'élimine de l'exposition pour des raisons, disons, quelque chose de complètement préjudice, comme ça. Donc Catherine, grâce à Corpé, vient, découvre cette censure, et donc elle arrive, elle décide de le raconter dans la presse. C'est extraordinaire, parce que je pense qu'il n'y aurait aucune autre magazine au monde, et aucune autre individualité, personnalité de la critique, hein, qui aurait pu avoir ce type d'écoute. C'est un type qui est inexistant, un étudiant qui on le censure, donc il n'a même pas le temps de faire son œuvre, mais j'ai existé grâce à la censure racontée par Catherine.
Ben oui, c'est comme ça qu'il faut utiliser les censures.
Oui, il faut.
Oui, oui. Mais,
tu as été étonné qu'on pouvait encore censurer déjà, parce qu'on était en 94.
Oui, à l'époque, on était moins habitués qu'aujourd'hui, en fait. Oui, c'est la différence.
Ouais, parce qu'on a un retour, on a des retours très bizarres, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est une période un petit peu curieuse.
Et on n'en est pas. On voit que les choses ne sont pas linéaires.
Non.
On pensait qu'on avait gagné un certain nombre de choses et
moi,
on n'a pas gagné.
Moi, je fais partie des gens qui pensaient qu'on avait gagné la liberté d'expression et en fait. Ouais.
J'ai travaillé dans un journal féminogauchiste qui s'appelait Enfants d'abord. Et donc, une des bases, c'était la question de l'avortement. Et donc, là, c'était en 89, 90. Et déjà, je m'étais rendu compte que ce n'était pas linéaire du tout. Mmh. Et donc, on croit qu'on gagne des choses, qu'elles sont acquises. Ce n'est pas le cas.
Non, il faut toujours retourner sur le front.
C'était la question de la Pologne à l'époque, par exemple. Il y a des vagues comme ça qui reviennent. Mmh. Le catholicisme, l'Italie, aujourd'hui, il y avait déjà Berlusconi qui était déjà quelque chose de...
J'ai appris par un film qui s'intitule « Une femme sur le toit », un film polonais. Je ne me rappelle pas la cinéaste parce que je connais la productrice du film. Et donc j'étais invité à en avant-première comme ça. Et ce film m'a appris qu'en Pologne, on ne peut pas avorter.
C'est ça.
Oui. À notre époque, en Europe. Donc,
déjà, pour acheter la pilule en Pologne, c'est pas évident.
Donc, effectivement, ce qui est acquis n'est jamais acquis, en fait.
Non.
Mais ça, c'est le cas aux États-Unis, selon les États. Là. Mmh. Mais là, c'est la pilule pour avorter, là. Tu vois, que c'est pas un médicament, je sais pas comment il s'appelle. Mais il y a des États où c'est autorisé, des États où c'est pas autorisé. Ah. Et après, tu n'as pas le droit de l'envoyer par la poste. C'est vraiment très, très étrange. On va écouter un petit morceau de musique.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es, qui tu es. J'imagine un monde céleste, où personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi, c'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice, qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. Je veux revoir le monde de l'autre fois, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir en toi tout ce que je suis pas. Dis-moi qui tu es, mais surtout s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es, qui tu es. S'il te plaît, donne-moi ton cœur.
Un commentaire sur la chanson, Alberto?
Ben, je ne connais ni la chanteuse ni la chanson, je l'écoute pour la première
Elle
fois.
Elle va représenter la France à l'Eurovision.
Ah, c'est bien, c'est une belle chanson.
Je lui souhaite un grand succès.
Mais ce qui me plaisait, moi, c'est juste qu'elle dit « Donne-moi ton cœur, ton corps et le reste ». Je trouve que c'est le reste qui était quoi, intéressant.
Ça me fait beaucoup parce que on m'a donné une carte de visite de quelqu'un qui vend de la charcuterie et c'était marqué justement charcuterie et plein d'autres merveilles. Sous la carte de visite.
Ah, d'ailleurs, à ce propos, j'avais, la première expo sur, une expo que j'avais fait sur l'amour, c'était dans le 13e, hein, rue de Pâté. Ça s'appelait Ma vie à deux, où j'avais loué deux étages de chambres dans un hôtel. Chaque artiste avait une chambre. Et ça durait 3-4 jours comme un salon. Et j'avais proposé à Alberto de participer. Mais je n'ai pas pris sa candidature finalement. Tu peux raconter pourquoi d'ailleurs?
Parce qu'il me parle. Donc c'était encore déjà une expo sur une idée d'amour, sur une thématique d'amour. Donc le titre était Ma vie à deux.
Oui, Ma vie à deux.
Et donc la première question. Donc on ne se connaissait pas, c'était la
c'était
première
en 2000,
fois qu'on,
ouais,
qu'on se rencontre. Et je lui dis bah, je veux bien participer à ton exposition. Est-ce que tu as eu un budget pour monter cette exposition? Il me dit oui. Eh bien très bien. Dans ces cas-là, mon œuvre, ça sera de récupérer tout le budget, la totalité. Parce que je ne conçois pas une autre façon d'imaginer la vie à deux et l'amour. Tu vois. Et alors, lui dit, ça me plaît beaucoup, sauf que, par respect aux autres artistes, je me vois mal, te donner tout, ouais, à toi. Et depuis, on est resté très proches, en fait, grâce à ce...
À cette proposition. Ouais.
Voilà, ouais, la non-réalisation de mon œuvre.
Est-ce qu'il y a eu des moments plus forts que d'autres dans les expositions sur l'amour? Est-ce qu'il y a eu des moments qui transcendaient tout, qui des éblouissements, des moments de cristallisation, comme dirait Stendhal? Est-ce que tu es tombé amoureux? Est-ce que vous êtes tombé amoureux dans une de ces expositions? Est-ce que...
Ah oui, bon après, personnellement, oui, ça m'est arrivé d'être quitté pendant le salon Amour.
Ça, c'est autre chose.
Il est pourtant très court, mais... voilà. Ah, c'était ouais, à plateforme en 2017-2018.
Ouais. Vous m'avez envoyé un message télépathique. C'est pas possible.
Ouais.
Alors, que dire d'autre sur l'amour? Qui c'est qui veut intervenir?
Ah. Ben, sur l'amour, déjà, c'était un... Bon, j'ai différencié quand même l'amour de l'érotisme. Il y avait le salon érotique et ensuite je me suis dit je fais un salon sur l'amour. Voilà.
Et donc quelle est la différence? Donc l'amour est sublime, l'amour sublime l'érotisme.
C'est quoi, oui, la différence. C'est... je sais pas c'est quoi la différence.
Ouais.
J'ai adoré une réponse de Catherine Millet dans une émission télé, genre talk show comme ça, italienne, au moment de la parution de ton livre « La vie sexuelle de Catherine M. » Et je crois, c'est un souvenir lointain, mais il y avait des invités, des autres femmes très célèbres en Italie par la télé en fait. Et qu'ils parlaient de leur histoire d'amour, ils passaient d'un mari à l'autre, mais c'était toujours des maris riches et puissants, en tout cas cette histoire, aussi des histoires de carrière liées aux relations privées. Et donc, Catherine Millet suscitait un certain... elle choquait, non, grâce à ce livre, parce que, en plus, un intellectuel qui ose décrire avec une telle regard scientifique, justement une telle distance... détaillé comme ça, c'est magnifique et à la fois scandaleux pour les bien-pensants. Et donc, ils disaient, mais oui, mais comment c'est possible? Mais alors, c'est d'autres femmes qui, justement, n'ont fait carrière que grâce aux relations. Et Catherine a répondu, mais moi, je suis depuis toujours avec le même homme. Donc, disons... Quelle autre...
Donc ça transcende la...
Quelle autre définition pour l'amour, en fait? Disons, évidemment, l'érotisme, le sexe, c'est une chose. L'amour, c'est une autre chose. L'amour, pour moi, c'est aussi l'apprentissage, en fait. S'il existe si nous sommes doués de cette capacité émotive qu'on pourrait appeler l'amour, c'est parce qu'on a besoin d'apprendre, de suivre un exemple. Et comment on peut suivre un exemple de quelque chose qu'on n'aimerait pas? Donc, en nature...
Et je me disais, mais je ne sais pas ce que c'est l'amour fou de Breton, et donc j'ai ouvert Google. Moi, je pensais à la cristallisation standard, je pensais à préparer le débat, même si je préfère laisser parler les autres. Mais donc, et j'ai brusquement vu dérouler quasiment tous les romans occidentaux, que si on pose une question à Google sur l'amour, tous les romans auxquels on passe défilent. Sont un truc standard comme Babelio, par exemple, qui est le goût commun, hein, qui est relativement bien fait, en fait, pour faire un sondage de type sociologique. Tout défile. Hein. On a Léo de Levent, mais on a Anna Karenine, on pense à n'importe quoi. On a de l'amour, mais partout. Partout, ça c'est la trame de fond, en fait. Et après, les versions sont différentes. Il est effectivement, c'est plus ou moins trash par exemple, ça c'est plus ou moins doux, c'est plus ou moins édulcoré, ça c'est plus ou moins sociologique. Hein, on va voir l'amour chez Zola, c'est évidemment que c'est pas la même chose que l'amour chez Flaubert, et donc ils sont contemporains quand même. Hein.
Moi je crois que c'est le principal sujet Baudelaire. De la littérature en fait.
Hein, on est d'accord.
Bien sûr.
L'amour chez Baudelaire, c'est pas l'amour chez Verlaine.
Non. Mais pas chez les scientifiques. Ah. Parce que Freud s'est pas intéressé à l'amour. Il parle très peu d'amour dans ses bouquins. Il parle de...
Il préfère le pratiquer.
Non, il parle de... Il parle de sexe, mais il parle pas vraiment d'amour.
Ouais.
Il a du mal à expliquer l'amour.
Donc,
il y a quand même des choses sur l'amour maternel, par exemple. Il y a quand même des choses sur... Il y a d'autres formes d'amour que l'amour entre deux...
Mais après, il ramène ça au complexe d'Oedipe, c'est le désir de...
Non, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a de l'amour quand même dans...
Ouais.
Dans ce qu'a pu étudier Freud, quand même. Non, je suis pas d'accord. Non, mais...
Lacan, il pense qu'à ça. À l'amour. Les moments forts de Lacan, c'est sur le désir.
En fait, c'est...
C'est pas la même chose, alors, du coup.
Pour moi, c'est la même chose, mais...
Ah bon ?
Ouais.
Ah, bah alors, justement, j'allais dire...
Je réunisse les deux savoirs, alors.
Moi, je sais que... Enfin, puisque Alberto faisait allusion à la vie sexuelle de Catherine M., quand j'ai publié ce livre... c'était une question qui revenait tout le temps. Est-ce que vous faites une séparation entre l'amour et la sexualité? Alors, étant donné ce que je racontais, je disais, oui, bien
c'est
sûr.
Évident, bon.
Et je pense que, justement, si les gens tombent dans un piège, en fait, de confondre les deux, Je pense que ça les empêche de connaître l'amour, parce qu'ils confondent le désir, ce qui sexuellement vous attire, la pulsion qui vous pousse vers quelqu'un, le désir de faire l'amour avec cette personne, bon, avec l'amour, avec un attachement qui en fait est d'une autre nature, et du coup ils tombent d'une histoire d'amour dans une autre, et en général, comme le désir, bah, ça n'a qu'un temps, et ils se retrouvent très malheureux à la fin de cette histoire, et du coup il retombe dans une autre histoire. Moi je pense que non, c'est nécessaire de faire la différence entre l'amour et la sexualité. Donc
mais vous avez une force exceptionnelle.
Oh, bah, je sais pas si c'est une question de force,
c'est ce que je pense. Parce non, que dans, je pour sais moi pas. Dans la pour moi l'amour c'est une demande, c'est un désir d'être aimé, et donc ça parle du désir, parce que le désir d'être aimé
c'est une autre forme de désir
physique. Si je veux savoir si la fille que je suis en train de draguer en face de moi-même, je voudrais quand même qu'elle me donne son corps. Donne-moi ton corps et le reste. Et quand j'ai lu La vie sexuelle de Catherine M., j'étais très impressionné par cette distance que vous arrivez à prendre. Donc, par exemple, moi, j'en serais totalement incapable. C'est chaque fois qu'on me donne que je revendique un corps, c'est surtout un désir d'être aimé. Qui se manifeste là-dedans. J'ai pas cette puissance de séparation entre le corps et l'esprit, si on peut appeler ça comme ça.
C'est bien, on a les confidences de l'animateur de l'émission. On va lui poser des questions, c'est nous qui allons lui poser des questions maintenant.
Non, mais je participe à l'exposition. Je suis dans une position.
Après, c'est double. Après,
et on est dans une radio libre en plus.
Ouais. On est libre dans cette radio comme on l'est aussi à l'extérieur, en tout cas absolument. Pour ce qui nous concerne. Mais après, effectivement, il faudrait définir qu'est-ce que c'est l'amour, parce qu'il y a beaucoup trop de constructions sociaux, culturelles, politiques autour de l'amour, et la même construction à l'envers, sociopolitique, culturelle, sous la sexualité, qui là toujours, en fin de compte, on retombe encore à notre époque, presque dans une criminalisation de la sexualité, une espèce d'exaltation de l'amour, mais l'amour et le sexe n'ont rien à voir avec cette invention socio-politique-culturelle.
Moi, ce qui me frappe maintenant que je deviens très vieux, c'est comme on est très différent selon les âges. Et comme quoi, ces définitions, cet essentialisme est faux, parce qu'on n'a pas du tout même la même perception des choses en fonction des moyens physiques dont on dispose, en fonction de notre état général.
Oui, et de l'expérience aussi.
Et c'est par usure, par exemple, qu'on va aimer ses proches. Parce qu'avant, on était un seigneur. On arrivait chez soi, et on n'avait pas, là, on n'était pas dans une demande. Et à la fin, on est dépendant. Et c'est quand même très, très ambigu. Comme c'est tous ces discours avec des majuscules à tous les mots sont faux dans la pratique réelle de la vie. Et par exemple, enfant aussi, on est très dépendant et on peut être dans des situations extrêmement difficiles. Je sais pas, je lisais, je fais des piches, je fais des comptes rendus de livres, je lis la vie d'un garçon que je connais bien, sa jeunesse et tout, et je me dis, putain, il était heureux, tout le monde était gentil avec lui. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu ça en vrai. Où est-ce qu'on vit, hein? Le mec est le fils d'un pasteur suisse, famille nombreuse, et ce qu'il décrit, c'est un escalator qui monte doucement, comme ça, dans une grande surface, je sais pas, Sergi 2. C'est beau, il y a des platanes partout. Le père, il est pasteur, il lui raconte l'Odyssée, il le raconte aux garçons l'Odyssée le soir, dans leur lit. C'est incroyable, ce monde. Moi, tout ce que je me souviens, c'est des coups, c'est l'internat, c'est le bizutage, c'est la merde. On est dans des positions dos au mur, tout le temps, à se défendre. Où tu vas aimer quand tu risques de prendre une claque si tu te relâches. Et donc, c'est comme ça. Donc, il faut éviter d'essentialiser peut-être les choses.
Ah oui, complètement, surtout l'amour, moi, je pense.
Il y a un chef-d'œuvre du cinéma, Freud, Passion secrète, de John Huston, avec un scénario de Sartre.
Et, ça a été tourné?
Oui, ça existe, Passion secrète. Et 1962, peut-être. Et Montgomery Clift, jeune, joue la jeunesse de Freud. Et le film termine sur Freud, jeune, qui donne une conférence dans amphithéâtre universitaire, académique de médecine, et il parle de la sexualité de du bébé, même pas de l'enfant. Et évidemment, aujourd'hui, c'est quasiment inécoutable, tu vois, de mentionner que la bouche du bébé qui va chercher ce téton maternel est déjà du pur érotisme. Et c'est sous cette relation que, disons, notre espèce vivante, comme toutes les espèces vivantes, et que notre société est construite. Disons, si on nie cette évidence.
Moi, le souvenir que j'en ai, mais je pense que c'est du Freud, oui.
Évidemment, ça crée, dans le film, ça crée un. Ouais. Disons, si.
Ça y est, ils me mettent le générique de fin. Merci, merci à tous les gens derrière la vitre. Merci à Didier Robert et aux jeunes gens qui étaient avec lui. Merci à vous.